Pack FM, il est 10h40, on sait se faire désirer, on laisse le plaisir se faire. Ouais, on a 10 minutes de retard, mais ça va aller, c'est votre rendez-vous ciné de la semaine. Action, jingle.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre.
Moteur. Et action. Moteur.
Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Bac FM, je m'appelle Théo et le mercredi matin, eh bien, on parle cinéma. On commence ce mercredi ensoleillé avec pas mal d'infos cinéma. Je suis en compagnie de Letty, bien évidemment. Salut Letty.
Salut Théo.
Ça va?
Eh ben, ça va super, ouais.
Avec ce soleil, ça ne peut que aller.
Oui, soleil, petite proc sympa.
Ouais.
Et puis, petit film du grenier. Aujourd'hui, je vais retomber un petit peu dans mes travers.
Ah.
On va retourner du côté du film d'horreur.
Ah yes, on a hâte d'être déjà en fin d'émission. Letty, il y a un petit film aussi qui sort au cinéma Zara aujourd'hui, qui se prête un petit peu à ce soleil, un petit road movie
sapin. Oui, j'ai hâte que notre invité chroniqueur nous en parle.
Ouais, on a un nouveau arrivant sur Bac FM. C'est notre stagiaire, il s'appelle Marc-Anthony. Salut Marc-Anthony.
Bonjour.
Salut Marc-Anthony.
Ça va?
Je vais bien et vous?
Bah ouais,
super.
Ça va. Bah, le cinéma, ça te parle?
Ah oui, beaucoup.
T'aimes ça, hein?
Beaucoup, oui.
Tu veux faire quoi plus tard? Tu nous as raconté que tu voulais avoir un petit pied dans le cinéma.
Ouais, bah j'aimerais bien faire acteur plus tard. J'aime bien jouer des rôles et tout.
C'est quoi ton acteur phare qui t'inspire le plus?
N'importe lequel?
Ouais.
Je dirais Tom Holland.
Ah oui, toi tu vas pas dans le petit acteur, quoi?
Non.
Ton film préféré de Tom Holland? Spider-Man?
Spider-Man Far From Home.
La ref,
ouais, c'est pas mal.
Tu vas nous parler de deux films tout à l'heure.
Ouais, c'est bien.
T'as
ça.
T'as pas fait dans la demi-mesure. Il y a 3-4 films qui sortent au cinéma Zara cette semaine. T'en as pris deux, paf.
Ouais,
dont direct. Un très très attendu d'ailleurs.
Oui, oui.
Qui sort pas mercredi, mais qui sort vendredi. Parce
c'est
que
ça.
Sortie exceptionnelle. Quand tu m'as dit ça, j'ai dit non, bah, c'est pas possible. Attends, tu te trompes. Bah non, en fait, il sort vraiment vendredi.
Ouais.
Tu remplaces un petit peu Manuel, mais Manuel qui est quand même là. Hein.
Il
nous a enregistré quelques petites chroniques. Il va nous parler de Jean Dujardin. Et puis il va nous parler aussi du dernier Yorgos Lanthimos. Avec toujours Emma Stone, hein, qui est son actrice un petit peu vedette d'ailleurs à ce réalisateur.
Emma Stone qui est en ce moment partout.
Mais ouais, mais oui, elle est. On la voit partout, effectivement.
Une fois, elle a un titre, je sais plus si c'était à la télévision ou dans la presse, Emma Stone, la nouvelle pierre précieuse du cinéma.
Ouais, c'est vrai, mais j'aime beaucoup Emma Stone. Tu aimes bien Emma Stone?
Ben ouais, j'aime bien Emma Stone, mais un truc que pas beaucoup de personnes savent, c'est Emma Stone, mais c'est pas son vrai nom.
Oui,
c'est
oui.
C'est pas son vrai nom de famille.
Oui, c'est vrai, elle a dû changer, mais elle a été obligée de changer, je crois.
Elle
a
été obligée, c'est ça, ouais.
Pourquoi?
Bah parce qu'il y avait déjà une Emma, je me souviens plus de son nom de famille d'ailleurs, mais
ouais,
c'est une dame qui s'appelait exactement.
En fait, elle avait un homonyme qui avait déjà une certaine notoriété, du
voilà.
Coup, elle a dû changer de nom. Ouais. Ouais,
exactement.
Petite info, première info de Marc-Anthony. Hein.
Ouais.
C'est un peu les infos. D'ailleurs, on va y passer aux infos.
Allez.
On va commencer à toi, générique, Letty.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes?
Eh ben, les nouvelles, elles sont pas si bonnes que ça, Letty, surtout pour un film qui va essayer d'avoir une seconde vie sur les plateformes.
Oui, alors moi je vais vous parler de l'industrie du cinéma qui a enfin trouvé le remède imparable pour se soulager le bide, c'est la VOD.
Ouais, mais non, mais c'est vrai.
Ouais. Alors si historiquement, de toute façon, le petit écran, qu'il s'agisse des diffusions télé, des VHS ou des DVD, il a souvent sauvé de nombreux chefs-d'œuvre du 7e art en péril, en leur permettant parfois d'accéder au statut de film culte, même après un échec retentissant au box-office, et ben fallait quand même attendre au mieux plusieurs mois avant que ces longs métrages soient disponibles à la vente ou à la location pour qu'on puisse les regarder bien confortablement dans nos canapés. Mais entre les plateformes qui pullulent, le streaming illégal et les places de ciné qui sont hors de prix, et ben il a fallu trouver des solutions pour s'adapter. Et une de ces solutions, c'est de réduire ce laps de temps entre la sortie du film au ciné et sa disponibilité en VOD.
Bah là, c'est le cas avec d'ailleurs le film que tu vas nous évoquer.
Et ben exactement, c'est exactement ce que vient de faire les studios Warner avec le film Les Guetteurs.
Ouais, on en a parlé il y a quoi, il y a 15 jours?
Ben, il y a 15 jours, ouais, c'est le film de Ishana Knight Shyamalan, la fille de M. Night Shyamalan. Et on en a parlé il y a pas longtemps parce que le film, il est est sorti au cinéma le 7 juin aux États-Unis et le 12 en France.
Mmh, ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, et là, il va déjà sortir en VOD. En fait.
Et ouais, et le film Les Guetteurs, il sera disponible en VOD dès le 28 juin. Alors pour le public américain, hein, je tiens ouais. à le préciser, mais bon, c'est quand même énorme. Et c'est pas la première fois qu'un studio va prendre une telle décision parce que, bah, pour prendre un exemple tout récent, c'est le film Furiosa. Avait subi exactement le même sort.
Ouais, ouais.
Il a été lâché en VOD 5 semaines seulement après sa sortie au ciné.
Ouais.
Donc c'est pas laps de temps très très court. Mmh. Ça confirmait son échec cuisant au box-office. Et bah, dorénavant, les studios, ils ont vite fait de sortir ce Joker VOD, puisque l'année dernière, il y a eu les films, hein, Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, il y a eu Shazam 2, il y a eu Le Dernier Voyage du Déméter, qui ont eu droit au même traitement.
Mais c'est intéressant ce que tu dis. Alors par contre, tu dis ouais, c'est dispo que pour les Américains, que aux
ouais.
États-Unis, mais maintenant, avec tous les logiciels
oui.
VPN, etc.
Exactement.
C'est hyper facile, en fait, pour les Français, mais ouais. aussi les Allemands, les Suisses, tout ça, d'aller choper un film
mais
aux États-Unis.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'en France, il va être là peut-être ce week-end. Quoi.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça, c'est un truc de fou. Et pourtant, Les Guetteurs, Manuel nous en avait dit plutôt du bien. Hein. On avait,
oui.
on avait une chronique qui était vachement sympa, elle est sur Facebook d'ailleurs.
Le problème, c'est que les gens ne se déplacent pas.
Ouais.
Et il est victime de ça. Alors justement, on va y venir hein, au cas des Guetteurs. Il a remporté 30 millions de dollars. C'est pas beaucoup
ouais.
hein, ouais. pour un box-office mondial. Ça le place bien en dessous des scores des autres films d'horreur qui sont déjà sortis en 2024, puisqu'à titre d'exemple, Night Swim, qui avait ouvert les hostilités, il a engrangé plus de 54 millions pour un budget de 15 millions. Donc
eh oui.
Voilà, c'est plutôt réussi. Imaginary s'en est bien sorti, puisqu'il a fait 40 millions, donc 4 fois son budget, hein, donc pas mal aussi. Et pour l'heure, eh ben, c'est Les Cartes du Mal qui a été le plus rentable, avec 47 millions de recettes pour un budget de 8 millions.
Un film qu'on a peut-être un petit peu moins entendu parler que
et les pourtant
autres,
on n'en a pas entendu beaucoup parler
ouais.
effectivement, mis à part dans le petit carcan des fans du cinéma d'horreur
ouais, c'est ça.
Alors malgré tout, si vous aviez prévu d'aller voir Les Guetteurs au cinéma, ben allez-y, parce que en France, mis à part par les réseaux illégaux, il est hors de question qu'il arrive prématurément en VOD pour une raison qui est toute simple, c'est que notre pays, il est soumis à un délai légal, il y a des accords.
Eh oui, c'est vrai.
Et le délai, il est de 4 mois avant la sortie d'un film à la vente ou à la location.
Mais d'ailleurs, j'ai vu un truc là-dessus, c'est sur les films maintenant qui sont financés par Netflix notamment.
Ouais.
Alors, il y a Netflix, il y a Amazon, il y a tout ça, d'accord, mais on voit beaucoup maintenant de plus en plus de films où quand on voit Pathé, on voit tout ça, les enseignes de production
ouais.
avant le début du film, et des fois il y a Netflix. C'est le cas par exemple avec là, l'autre fois j'ai regardé Les Chèvres avec,
oui.
Avec Danny Boone là et mince, j'ai oublié son nom, Jérôme Commander, et il y avait Netflix dessus, et donc je suis allé voir, et en fait il y a un délai, c'est ça, il sort au cinéma, après donc c'est par exemple 2-3 mois après il va sortir en VOD, et seulement, VOD payant, et seulement
ouais.
après 2-3 mois après il va sortir sur Netflix, et c'est ça en fait, il y a une
En fait, il y a un calendrier, vous pouvez le trouver sur internet, qui explique comme c'est cet accord justement, et tous les délais finalement, donc de la VOD, de l'autorisation à passer
ouais.
sur les plateformes, de l'autorisation à passer à la télévision, le prioritaire c'est Canal+, après c'est les autres
ouais,
chaînes
voilà,
de
c'est
télé
ça, ouais.
et,
c'est
donc,
selon le financement
voilà,
en fait.
Nous en France il n'y a encore pas ce Joker là, mais je pense que les studios vont finir aussi par le dégainer chez
ouais,
nous,
bien sûr, ouais.
parce que comme tu le dis là, par les réseaux illégaux, de toute façon Les Guetteurs on l'aura sur les plateformes,
oui.
moi je dis ce week-end,
et c'est une manière aussi de contrer tous ces réseaux illégaux et de les devancer aussi
ouais.
entre guillemets.
Alors
bien
par
sûr.
Contre le prix de la location aux États-Unis des Guetteurs, et, enfin, moi je trouve que c'est hors de prix, je sais pas si c'est le prix habituel, je crois que c'est 24€ enfin, ou 24 dollars et quelques.
Ah ouais, donc là pour le coup vaut mieux aller au cinéma quoi.
Vaut mieux aller au cinéma. Alors je sais pas quel est le prix d'une place de cinéma aux États-Unis.
Mais
$10, un truc comme ça.
Ouais, bah ouais, c'est 24 balles, t'en comptes.
Donc voilà, si vous voulez aller voir Les Guetteurs au cinéma, ben, ne vous privez pas, d'autant qu'il est encore disponible au cinéma Zara.
Eh bien, on aura l'occasion, écoute, de guetter ça de plus près,
voilà.
Laetitia. Manuel voulait nous parler aussi de quelque chose de Jean Dujardin en Zorro. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, ça. Les premières images de la série, elles sont sorties en ligne hier. Eh bien, écoutez, Manuel, il nous en parle, Jean Dujardin en Zorro. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ?
Alors Théo, sur ces premières images, on peut y voir un Don Diego de la Vega, alias Jean Dujardin, rangé des chevaux. Finalement, il est de retour et il va rendre la justice au galop comme il se doit. Il signe toujours son nom à la pointe de l'épée. Ouf, nous sommes soulagés. Le héros masqué est en effet devenu maire de Los Angeles dans les années 1820, dans cette série qui sera diffusée un petit peu plus tard cette année sur Paramount+, avant de l'être ensuite sur France Télévisions, sans plus de précision sur le calendrier. Et au cours de ces 8 épisodes, qui ont été co-créés par le scénariste et réalisateur Noé Debré, à qui l'on doit Parlement ou bien Le Dernier des Juifs, eh bien, le légendaire Don Diego de la Vega est contraint de ressortir son costume de vengeur masqué pour combattre un redoutable homme d'affaires local. Jean Dujardin campe ce Zorro aux prises avec les affres de la double identité. Il y a à ses côtés aussi Audrey Dana, André Dussolier, Eric Almosnino, Grégory Gadebois aussi, qui complètent le casting de cette série. On le rappelle, personnage de fiction qui avait été créé à la fin des années 1910. Zorro a déjà connu plusieurs vies sur le grand et le petit écran. Il a fait l'objet d'une série mythique en noir et blanc, diffusée aux États-Unis à la fin des années 50, puis ensuite qui avait été diffusée à la télévision française. Et on se rappelle qu'en 1998, le comédien espagnol Antonio Banderas lui avait par ailleurs prêté ses traits dans le long métrage Le Masque de Zorro, réalisé par Martin Campbell, et c'était aux côtés de l'actrice Catherine Zeta-Jones.
C'est 20 ans que je te répète que c'est fini tout ça. La violence ne résout rien. C'est pas la même matière, non ?
Qui êtes-vous ?
Bah, Zorro, je suis pas parti si longtemps non plus.
Oui, Zorro, Jean Dujardin, pardon, j'y étais plus là, oui, j'ai eu un petit blanc. D'ailleurs, je me posais cette question là pendant la bande-annonce. Zorro, ça te parle ou pas, toi, Marc-Anthony ?
Bah, bien sûr que oui, ça ouais. Me parle beaucoup. Bah, je sais que ma mère est assez fan de Zorro. Elle connaît très bien.
Et on la salue d'ailleurs.
Oui.
Oui, on lui dit un bonjour. Et alors,
est-ce qu'elle est au courant que Jean Dujardin va incarner Zorro ?
Je ne pense pas, parce que si elle a pas vu sur une bande-annonce sur Facebook, elle n'est pas au courant.
Mais tu vas lui en parler, puis tu nous donneras son retour.
Bah, bien sûr, oui, je ferai ça.
Est-ce qu'elle regardera Zorro en Jean Dujardin ? Toi, ça t'inspire ou pas, Alexis ?
Ouais, alors moi, Zorro, c'est mon héros d'enfance.
Ah ouais ?
Ouais. Je suis d'une génération qui regardait une émission qui s'appelait Disney Channel tous les samedis soirs, et dedans, ils diffusaient la série, la vieille série en noir et blanc.
Ouais, à l'époque, ouais,
Zorro,
bien sûr, ouais.
Et tous les samedis soirs, on attendait Zorro avec impatience, et je me déguisais en Zorro. Et dans la cour d'école, quand j'étais en maternelle, on jouait à Zorro tout le temps.
Mais le retour un petit peu des gueules cultes comme ça au cinéma ou en série, ça a toujours été, en fait. On dit, c'est un petit peu la mode, mais en fait, je pense que c'est un renouvellement à chaque fois de gueules cultes un petit peu comme ça. D'ailleurs, on va le voir dans les sorties ciné génériques.
C'est pour le cinéma ou la télé ?
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Et ouais, on va faire un tour maintenant du côté des sorties ciné, et donc du ciné Mazarin, avec 3 sorties cette semaine, 2 films français et un film très 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 attendu. On commence avec le 3e film avant d'une saga qui est très anxiogène, avec comme acteur principal, eh bien, le silence. Oui, oui, effectivement, c'est le silence, l'acteur principal de ce film. C'est Marc-Anthony, notre stagiaire, qui vous en parle en plus précisément de ce silence.
Oui, effectivement, aujourd'hui je vais vous parler du silence. Le silence, par définition, c'est l'absence de bruit. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que vous pourriez vivre en silence au quotidien ? Eh ben, les personnages que je vous fais découvrir aujourd'hui n'ont pas le choix. Je suis quasiment sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà au moins entendu parler du blockbuster Sans un bruit et de sa suite Sans un bruit 2. Alors, ils n'ont pas cherché très loin pour le nom du deuxième. Et en réalité, ils n'ont pas cherché pour le nom tout court. Parce que le nom du film, ben, c'est tout simplement son résumé. Les personnages vivent, on pourrait même dire survivent, dans un monde où le bruit est devenu dangereux, mortel même. Après l'invasion de la Terre par une race alien extrêmement sensible au bruit, les humains sont forcés de vivre au quotidien en évitant de faire le moindre son. Aujourd'hui, on parlera pas des deux premiers films. On va commencer par le début, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Sans un bruit, jour 1, qui sort en salle aujourd'hui d'ailleurs. C'est le troisième film de la saga Sans un bruit, et c'est en fait un préquel, une suite qui se passe dans le passé des films précédents. En gros, Sans un bruit, jour 1, ça se passe le jour même de l'invasion de notre planète par les extraterrestres, d'où son nom, jour 1. Dans le film, on suit Samira, qui est incarnée par Lupita Nyong'o, on l'a vu dans Us et aussi dans Black Panther, et elle est accompagnée par Eric, qui est lui incarné par Joseph Quinn, connu pour son rôle d'Eddie Munson dans la saison 4 de Stranger Things. Nos protagonistes, on les retrouve dans New York, essayant de survivre du mieux qu'ils peuvent en restant silencieux dans la ville qui ne dort jamais.
On peut s'entraider, faut qu'on sorte de la ville. On est tout seul.
Durant leur péripétie, ils vont rencontrer d'autres survivants et de nombreuses complications, sinon c'est pas drôle.
Si on reste ici, on est mort. J'ai un plan.
C'est là que le film nous plonge dans une ambiance très malaisante pour beaucoup d'entre nous, le silence. Je sais qu'il y en a, à l'inverse, qui aiment le silence. Moi, perso, j'ai horreur de ça. En tout cas, le truc qui est sûr, c'est que le silence dans Sans un bruit, ça peut rendre tout le monde mal. C'est le silence de l'horreur. On le voit souvent dans les films d'horreur slasher. Je sais pas si vous voyez, mais je vous fais un peu le portrait. Il y a le protagoniste caché derrière ou en dessous d'un meuble. Et puis, à peine un mètre de lui, le tueur, avec une arme à la main. Et puis, il approche. Dans cette situation, le silence, il est obligatoire pour la survie du protagoniste. Pourtant, tout ce dont il a envie, c'est de pleurer ou même de crier dans le pire des cas. C'est le silence qui exploite Sans un bruit, en continu, sur trois films, au grand plaisir des fans de thriller.
C'est la fin des temps, la fin de l'humanité, la fin de New York, la fin de tout.
Ces fans qui, sans plus attendre, peuvent courir au cinéma, et donc au cinéma Zarin, où le troisième volet de Sans un bruit, le jour 1, est disponible. C'est le jour J, mais...
Chut. Eh oui, chut, Marc-Anthony, silence, allons, silence. Pourquoi t'as choisi ce film? Pourquoi t'as choisi d'en parler, en fait? Parce que quand je t'ai dit, écoute, choisis un des films qui sort au Mazarin, et tu m'as dit, bah, je prends direct celui-là. Pourquoi?
Ben, j'aime beaucoup les films d'horreur, c'est un type de film que j'aime bien. Et puis, je sais pas, le film Sans un bruit, ça m'inspire beaucoup parce que, comme je l'ai dit, j'ai horreur du silence. Ceux qui me connaissent sauront qu'il n'y a pas une seule seconde où j'arrête de parler, à part quand je dors. Et donc du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série de films.
Allez voir l'inverse de ce que tu détestes. Letty, justement, parce que là t'as une fan d'horreur en face de toi, attention. Ce film, jour 1.
Ouais, moi j'ai bien envie de le voir parce que bon bah il y a eu déjà les deux précédents. Donc là on est sur du préquel, mais alors moi ils m'ont perturbé ces films-là pour une raison justement un peu comme Mav, c'est le silence moi qui m'a perturbé. C'est ces scènes justement où on a ce silence profond. On n'est pas habitué à avoir ça quand
surtout dans une salle de ciné, ça doit être assez étrange.
Alors moi je les ai pas vus au cinéma parce que ces films-là c'est des grands classiques des plateformes, on les trouve souvent sur Netflix. Et moi ça me oui, ça me perturbait de voir mon écran et de pas avoir de son, si tu veux. Et je les ai trouvés relativement... On est entre le film d'horreur, le film catastrophe, un peu. Mais c'est si vous avez pas vu les deux premiers, essayez d'aller les voir avant d'aller voir le préquel. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Et Mav nous a fait vraiment une super chronique.
Il nous a mis dans l'ambiance là.
Là, il nous a super bien vendu le film. Alors moi, j'étais déjà pas loin d'être convaincu, mais là, franchement, je vais peut-être d'ailleurs demander mon après-midi pour aller le voir tout à l'heure.
Avec Mav, vous avez filé au Mazarin, puis vous allez faire un retour demain. Donc de ce film s'appelle Sans un bruit jour 1 et c'est dispo au ciné Mazarin. Et puis si vous aimez pas le silence, on va vous proposer l'opposé avec de la musique. On va continuer avec un film français qui est une comédie, c'est un road movie comme première réalisation pour Laurence Harnais. Alors Laurence Harnais, en fait, c'est la conjointe de Danny Boone. Vous l'avez déjà vu à ses côtés dans La Ch'tite Famille, ce film où Danny Boone il a un accident, il a un traumatisme et du coup il se rappelle plus de rien, etc. Et donc là, ce film, ça s'appelle La Famille Enedrick. C'est une histoire de famille dysfonctionnelle qui part sur les routes avec de la musique et avec une influence d'un film qui s'appelle Little Miss Sunshine, un classique du cinéma.
Très beau film.
C'est un film où la musique a un rôle très important. Vous allez la découvrir avec la bande-annonce.
Ludo, on a besoin d'air là. Ça fait 2 ans qu'on trime comme des malades dans cette baraque. Henri veut aller vivre chez son père.
Ah, mon fiston!
Il est malheureux avec moi, et c'est mon job de le rendre heureux. Donc, on part en road trip. Maintenant.
Maintenant?
Ouais. Faut qu'on la soude, cette famille. On part tous les quatre, en vacances, à l'aventure.
Plutôt crever.
Aïe! Aline, c'est presque fini, chérie. Tu râles un peu, là, mais je te connais. Tu vas adorer.
On dort pas à quatre dans ce truc.
Mais si.
Maman!
Il y a 876 euros sur le compte, donc c'est largement suffisant pour une semaine.
On a monté un groupe de musique.
Ouais! D'ailleurs, faudrait qu'on trouve un nom.
Faudra un truc qui claque.
Family Recomposed.
C'est atroce.
Oh là là, vous êtes là!
Vol à répétition, agression physique, ça commence à faire là.
On a une garde à vue qui s'échappe, besoin de renfort!
Je me barre d'ici chez mon père.
Il est relou, putain!
Et toi, ta gueule!
Wow!
Il a 15 ans, c'est l'âge. Lâche un peu.
Si je lâche, il s'en va.
Mais non, il s'en va pas.
Moi, des fois, ma mère, elle me manque. Je préfère quand même rester avec mon père.
Pourquoi?
Parce que. Il est là.
Ça y est, j'ai trouvé!
Les Hendrix.
C'est canon!
Il adore. Ça l'emmerde de le dire, mais il adore.
Ouh, les Hendrix!
Un fils qui menace de partir vivre chez son père, sa mère qui l'embarque de force dans un road trip sur la côte atlantique avec son nouveau compagnon et son beau-fils Joseph. Et puis l'objectif, eh bien, unir sa famille recomposée coûte que coûte. Ça s'appelle la famille Hendrix et c'est dispo au ciné Mazarin. Focus maintenant sur l'événement de cette semaine, la sortie. Alors elle n'est pas demain, elle est vendredi, c'est ce que je disais en début d'émission car c'est une sortie événement. Pierre Ninet dans un rôle emblématique. Marc-Anthony, tu vas nous faire réviser notre littérature.
Voilà, c'est ça. Donc parlons un peu littérature. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Edmond Dantès? Alors déposez vos listes d'histoires, j'expliquais vite fait pour ceux qui connaissent pas. En gros, Edmond Dantès, c'est le personnage principal du roman Le Comte de Monte Cristo, écrit par Alexandre Dumas et Auguste Maquet en 1846. Dans le roman, Edmond, c'est un marin marseillais qui est accusé à tort à 19 ans et qui est emprisonné pendant 14 ans, alors qu'il était sur le point d'épouser sa belle fiancée Mercedes.
Eh oui, Mercedes.
Comme la voiture. Alors, il réussit à s'échapper avec l'aide de son ami l'abbé Faria, qui lui confie des secrets sur l'île de Monte Cristo, grâce auquel il deviendra le comte de Monte Cristo pour se venger de ses ennemis. Alors, si vous voulez encore plus d'infos, faudra attendre le 28 juin pour aller voir le film en salle. Donc, on parle bien du film Le Comte de Monte Cristo. Vous l'aurez deviné, c'est une adaptation filmique du roman du même nom dont je viens de vous parler. Dans le film, on nous raconte l'histoire d'Edmond avec cette fois-ci une multitude d'acteurs français qui interprètent les personnages de l'œuvre. On a tout premièrement, comme Théo l'a dit, Pierre Ninet en tant qu'Edmond Dantès. Pour sa fiancée Mercedes, on a Anaïs Desmoustiers. L'abbé Faria est joué par Pierre Francesco Favino. Et puis, bien sûr, on a les rivaux de notre personnage principal. On a Fernand de Morcerf, qui est interprété par Bastien Bouillon, et Laurent Lafitte est interprété par Gérard de Villefort.
Oui, Laurent Lafitte de la Comédie Française, très bon acteur d'ailleurs.
Alors, en plus, le film est réalisé par Alexandre de la Patière et Mathieu Delaporte. On les a vus travailler ensemble dans les deux films Papa ou Maman, mais plus précisément, enfin surtout, les deux films Les Trois Mousquetaires. Donc, ils ont déjà travaillé sur des projets du même genre, ça promet. Par contre, pour savoir si cette promesse sera tenue, ben, rendez-vous au cinéma Mazarin le 28 juin pour la sortie du Comte de Monte Cristo.
Et on en avant-goût avec la bande-annonce, Marc-Anthony.
Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser.
Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès.
Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres.
Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent!
Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort.
Qui êtes-vous?
Je suis l'abbé Faria.
Edmond, je te porte le plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor.
Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine?
À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous?
Je suis le comte de Monte Cristo.
prendront tout le temps qu'il faut pour être prêts.
Prêt à faire quoi?
À se venger.
Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo.
Albert, que sais-tu de cet homme?
Je me méfie de tout le monde en général et les étrangers en particulier.
Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient? Où il va?
Vous n'avez donc aucune pitié?
Et eux, ont-ils eu pour Edmond Dantès?
Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance.
Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice.
Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie.
Le comte de Monte Cristo, interprété par Pierre Ninet, c'est au ciné Mazarin. Pierre Ninet qui prend le risque hein, d'endosser un rôle qui a été endossé par des grands grands du cinéma juste avant lui. Et il est de retour alors avec les réalisateurs qui ont déjà réalisé Les Trois Mousquetaires. C'est une trilogie, Les Trois Mousquetaires. Il y en a déjà deux qui sont sortis au cinéma. Ça a cartonné, ce sont des très 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 beaux films. Et alors les premiers avis, tout le monde dit que c'est encore mieux dans la réalisation, dans l'image, dans la photographie, dans la mise en scène que Les Trois Mousquetaires. Donc ça promet vraiment une réussite hein, pour ce film. Je sais pas quel est votre avis sur... Pas, vous l'avez vu Les Trois Mousquetaires ou pas?
J'ai pas vu Les Trois Mousquetaires, mais j'ai lu Le Comte de Monte Cristo.
Ouais.
J'ai ni lu Le Comte de Monte Cristo et j'ai pas vu Les Trois Mousquetaires.
Bon, d'accord. Des deux.
Alors moi j'ai un souvenir d'une adaptation télé du Comte de Monte Cristo avec Gérard Depardieu.
Ouais.
C'était dans les années 90... Ouais, je pense que c'était ça, 90-2000. Ouais,
hein, et qui reste une des meilleures interprétations, ouais, d'ailleurs, hein, selon les critiques du monde du conte.
Qui avait beaucoup marqué.
Ouais.
Et non, mais le film, je pense que ça va être du lourd.
Et puis des réalisateurs qui... Alors, tu évoquais tout à l'heure Papa ou Maman 1 et 2, donc c'est, d'ailleurs c'est dispo sur Netflix depuis pas très longtemps. C'est Laurent Lafitte d'ailleurs qui joue dans ce film-là avec Karine Viard, c'est très sympa comme film. Mais quand ils se sont mis à des réalisations historiques avec Les Trois Mousquetaires, avec là, donc récemment le Comte de Monte Cristo, vraiment ils... Il y a autre chose encore, ils arrivent à filmer, ils arrivent à moderniser vraiment des films historiques qui sont vraiment, c'est très très intéressant, vraiment c'est très réussi.
Ouais, parce que le film historique, le film de KPDP, tout ça c'était quand même des films qui étaient très très poussiéreux.
Et ouais, exactement.
Et là, on les retrouve en version 2.0 presque.
Ouais, c'est ça, c'est un petit peu l'image de Zorro avec Jean Dujardin en fait, ça c'est moderniser un petit peu l'histoire tout simplement littéraire et romanesque, et du coup, c'est ce qu'on va retrouver avec Le Comte de Monte Cristo. C'est Pierre Ninet qui joue le rôle et c'est dispo au ciné Mazarin. Juste avant de retrouver Manuel qui va nous présenter une autre sortie, ce sera la dernière d'ailleurs du Mazarin pour aujourd'hui. Eh bien, c'est une musique qu'on retrouve justement de la famille Yenedrix qu'on vient d'évoquer, Letty.
On écoute Super Tramp.
Et on revient juste après.
I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send a smile and show you care. All right. I'll give a little bit. Give a little bit, or give a little bit of your time to me. See the man with the lonely eyes, or take his hand, you'll be surprised. Oh, take.
Vous écoutez Bac FM Super Tramp, c'est une des musiques que vous retrouvez dans la bande originale de La Famille Hennedrix, le road de movie très musical à l'affiche de votre ciné Mazarin, le film français avec Laurence Arnay et Danny Boone. Je suis en compagnie toujours de Letty, de Marc-Anthony à côté de moi. Action, votre rendez-vous cinéma sur Bac FM tous les mercredis matin. Vous nous retrouvez également en podcast hein, sur bacfm.fr, vos émissions en replay pour avoir toute l'actualité du cinéma Mazarin. On va y venir d'ailleurs dans quelques instants avec une avant-première. On va clôturer cette émission avec le film du grenier de Letty qui nous a ramené un film qui va nous donner des frissons.
Ouais. Aujourd'hui, on va frissonner.
Mais juste avant, Manuel va nous parler de la dernière sortie au ciné Mazarin de cette semaine à voir ensemble. C'est un film sombre et c'est signé Yorgos Lanthimos.
Alors, mon cher Théo, que dire à propos de ce long métrage ? Eh bien, en effet, dimension noire, d'ailleurs, Johnny Hallyday l'a chanté, noir c'est noir, black is black. Donc après son précédent long métrage intitulé Pauvre créature, Yorgos Lanthimos, eh bien nous offre une comédie très sombre dans laquelle on retrouve des esprits baroques pour ne pas dire extrêmement aussi complexes. Et dans ce long métrage Kinds of Kindness, les mêmes acteurs jouent d'ailleurs trois histoires différentes. Il y a Emma Stone, Willem Dafoe et Jesse Plemons, qui a d'ailleurs remporté, il faut le signaler, le prix d'interprétation à Cannes donc pour cette incarnation. Et ils sont vraiment épatants, les acteurs. Donc, plantons un peu le décor. Au fil de ces trois films, qui durent quand même, et il faut savoir à quoi vous vous exposez, 2h44 au total, eh bien, on va croiser donc un employé qui ne fait que obéir à son boss, à son patron, dans sa vie intime, jusque même dans sa vie sexuelle. Vous allez aussi voir apparaître un homme qui cherche la preuve que celle qui prétend être sa femme, de retour d'un accident, n'est pas vraiment sa femme. Ou même encore, une épouse qui va se trancher brutalement le pouce pour le cuisiner à son mari qui a envie de déguster son épouse. Voilà, on sourit parfois à ces situations absurdes, un peu voilà scabreuses, avec cette détermination des personnages. Mais il faut le dire, on peut aussi rester à l'extérieur, on peut rester de marbre face à justement à l'univers de Lanthimos. Que cherche-t-il à nous dire ? Que les hommes sont fous et qu'ils peuvent être manipulés les uns par les autres, mais ça, on le savait, on s'en doutait. Que les frères et sœurs humains ne sont que de pauvres créatures, ça aussi, voilà, on connaît la condition humaine et on ne se fait pas d'illusions à ce sujet. Voilà, la farce et sa cruauté noire pourraient être poussées un petit peu plus loin. Et voilà ce que je pourrais vous affirmer à ce sujet, mon cher Théo, en vous souhaitant bien sûr une excellente projection.
On y est. Vous pensez en être capable. Sweet dreams are made of this.
Who am I to disagree? Ouvre un peu les yeux et regarde ce qui se passe autour de toi. Il se pourrait que nous soyons tous en danger. Some of them want
to use you. Bonsoir. Some of them want to
get used by you. Je t'aime, Raymond. Some of them want to abuse you. Non, ce n'est pas de l'amour. Some of them want to be. L'autre jour, elle m'a demandé de la baiser en gardant mon uniforme et elle m'a tapé. Violemment.
Tu n'es pas obligé.
Dis que.
D'ailleurs, on n'a rien fait. On n'a pas baisé.
Le dernier, Yorgos Lanthimos, ça s'appelle Kind of Kindness. C'est à l'image de Yorgos Lanthimos en fait, hein. C'est assez étrange, pauvre créature déjà. Moi quand je l'avais regardé, je m'en rappelle, hein. J'avais dit mais c'est quoi ce film ? En fait, je trouve que ce qui est assez fort avec ces films, c'est que on voit que c'est complètement barré, que c'est une certaine vision de la société qui est assez étrange, qui est un petit peu vrai sur certains points, mais qui reste quand même assez démesuré sur pas mal de choses et pas mal d'aspects. Mais en même temps, on a envie de rester en fait dans l'histoire. On a envie de suivre l'histoire jusqu'au bout et de voir comment il va terminer le film en fait. C'est ça.
C'est un peu comme David Lynch en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu.
C'est des univers, voilà, comme ça où on. Sur le coup, c'est un univers qui va déstabiliser. On va se dire, oh, j'ai pas envie de regarder la suite, mais quand même, on est attiré, on est un peu hypnotisé.
Ouais, c'est ça. Et puis, Yorgos Lanthimos, il a surtout fait une découverte qui est Emma Stone. Et ça a changé complètement sa vie sur les films, parce que vraiment c'est l'actrice qu'il lui faut. Enfin, sa prestation dans Pauvre Créature, franchement c'est un film qui peut être hyper clivant. Il y a plein de gens qui peuvent dire non mais c'est quoi ce film, etc. Enfin voilà, je peux comprendre totalement, mais s'il y a bien une chose, où tout le monde peut être d'accord, c'est sur la prestation d'Emma Stone, hein, vraiment. Et d'ailleurs je vais vous apprendre quelque chose, bah, Emma Stone c'est pas son vrai nom.
Ah bon?
Ouais, vous le saviez pas?
Ah non, je savais pas du tout.
C'est mon anecdote, ça.
Ah non, moi je savais pas.
Non, ouais, non. Bah non, ouais, qu'est-ce que tu racontes? Non, ouais, je voulais vous raconter. Non, mais ouais, voilà. Donc, Kind of Canet, je vous invite à aller le voir. C'est au ciné Mazarin avec notamment donc Emma Stone. Un petit point très rapide avant de retrouver Letty et son film du grenier sur une avant-première qui vous est proposée au ciné Mazarin. C'est dimanche à 16h. Pourquoi tu souris avec le trio Jean-Pascal Zadi, Emmanuel Devos et Raphaël Quénard. C'est l'histoire d'un mec en galère qui va débarquer à Bordeaux. Il va avoir l'espoir de trouver un boulot. Il va croiser la route de Marina, donc jouée bien sûr par Emmanuel Devos, une humanitaire au grand cœur, et puis pour se faire héberger chez elle, il va prétendre être un sans-papier. C'est là qu'il va donc rencontrer le rôle joué par Jean-Pascal Zadi, un trio qui marche très bien, un trio très humanitaire, un film très social. C'est à retrouver au ciné Mazarin. Maintenant, on va avoir des frissons avec ton film du grenier, Letty, parce que tu vas nous parler de
Vendredi. Alors, 13.
Mon cher Théo... Ah non,
c'est Emmanuel.
De Vendredi.
Non, moi je vais vous parler de. Attends, j'ai refait. Vendredi 13. Oui, parce que ça y est, c'est officiel, en fait, l'été est arrivé, et moi, l'été, eh ben, j'ai envie de regarder des slashers. C'est comme ça, quand il commence à faire nuit, que la fraîcheur arrive, un petit slasher avec une bonne glace, une bonne boisson...
C'est vrai que ça donne envie, ouais, ça peut donner envie.
Ça
ouais,
donne envie. Du coup, aujourd'hui, j'ai descendu de mon grenier le slasher absolu de l'été, Vendredi 13, un film d'horreur totalement culte réalisé par Sean S. Cunningham, qui est sorti en salle en 1980, qui a largement contribué à définir et à propulser ce genre qui va devenir très en vogue à cette époque. Alors, comment ce petit film à tout petit budget est-il devenu un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma et une des franchises les plus importantes du cinéma d'épouvante? Aujourd'hui, on revient aux racines du mal, celles qui ont engendré Jason Voorhees, plus connu sous le nom du tueur au masque de hockey.
Mais alors, avant tout, Vendredi 13, on va planter le décor. C'est quoi le pitch de ce film?
Alors, l'histoire, elle commence durant l'été 1958. On a deux moniteurs qui sont en plein ébat amoureux. Et ils sont moniteurs au camp de vacances Crystal Lake. Et ils vont être sauvagement assassinés alors qu'ils sont en plein dans leur acte amoureux, quoi. Ouais. Et à la suite de ces événements, eh bien, le camp va fermer ses portes. Il va finir par être abandonné jusqu'à ce qu'un certain Steve Christie décide de le réouvrir le 13 juin 1979, date anniversaire du massacre de 58. Alors, bon, bah, peu importe cette date funeste, hein, finalement, c'est une belle journée d'été qui s'annonce pour la nouvelle équipe de moniteurs. Ils viennent tous d'arriver sur les lieux et c'est une bonne journée qui s'annonce malgré quand même plusieurs avertissements des habitants du coin qui les ont prévenus le camp, il était maudit depuis la noyade d'un petit garçon dans le lac de Crystal Lake en 1957. Alors, cette première journée, malgré tout, elle se déroule dans une ambiance très très détendue. On a les jeunes moniteurs qui font connaissance tout en préparant les lieu pour accueillir les enfants dès le lendemain. Et puis il y a la nuit qui arrive, et là encore une soirée qui promet d'être tranquille, conviviale, lorsqu'un orage éclate et oblige la petite bande à se séparer. Grosse erreur. Tous vont être massacrés les uns après les autres avec des armes blanches diverses et variées. À la fin, il n'y aura qu'une seule survivante. Mais qui est-ce? Qui est ce mystérieux tueur et quelles sont ses motivations? Est-ce qu'il aurait une vengeance à assouvir?
Et ce film, il a été inspiré d'une fête. C'est pas forcément une histoire vraie ou quoi que ce soit, c'est Halloween en fait qui a inspiré
Vendredi
13.
D'une fête et d'un film surtout, du film Halloween, et oui, de la fête et du film. Mais t'as raison, c'est les deux à la fois, puisque effectivement Halloween de John Carpenter, il était sorti en 78, donc 2 ans plus tôt. D'ailleurs, je l'avais fait en film du grenier, le podcast, c'est celui du 25 octobre, si vous voulez l'écouter. Et ce film, il avait cartonné un Halloween. Et ça, ça va donner des idées au réalisateur Sean S. Cunningham, qui avait déjà une petite expérience en matière de cinéma d'épouvante, parce qu'il avait travaillé avec Wes Craven, un autre maître de l'horreur. Il avait travaillé sur son film La dernière maison sur la gauche en 72, et il va donc se lancer dans ce projet qui va devenir Vendredi 13, un film que Cunningham voudra délibérément choquant visuellement afin de faire sursauter le spectateur.
Et un film qui va enterrer aussi définitivement les codes du slasher qui étaient définis par Carpenter.
Exactement, il coche effectivement toutes les cases définies dans Halloween, puisque l'action, comme tu le disais tout à l'heure, elle se déroule à une date précise. On avait Halloween, là on est sur une date que tous les superstitieux redoutent, le vendredi 13. On a le tueur psychopathe qui tue ses victimes à l'arme blanche, et puis les victimes en question, eh ben, ce sont de jeunes innocents, et la seule survivante, ce sera la plus pure de la bande. Un schéma qu'on retrouvera ensuite dans tous les slashers, jusqu'à ce que Scream vienne ajouter de nouveaux codes et de nouvelles règles.
Mais alerte spoiler, ne regardez pas Scream.
Eh ben, moi je vais spoiler par contre, je vous préviens, alors bouchez-vous les oreilles deux minutes. Bon, le film, il a 45 ans, Vendredi 13, donc je pense que tout le monde la connaît celle-là. Mais c'est vrai que Scream, il spoil Vendredi 13 dès son début en plus. La scène, elle est culte, hein. On a une jeune femme qui est jouée par Drew Barrymore, elle est toute seule dans sa cuisine, elle se fait du pop-corn, elle a un appel téléphonique d'un inconnu, il lui dit « je suis en train de t'observer », il se met à la menacer de plus en plus dangereusement, et tout d'un coup, il lui propose de faire un petit jeu. Si elle répond à un quiz sur le cinéma d'horreur, elle aura la vie sauve. Et là, il va lui demander qui est le tueur dans Vendredi 13. Et là, elle répond du tac au tac, c'est Jason Voorhees, c'est Jason Voorhees. Et là, il lui dit, c'est faux. Tu as faux? Elle dit, non, j'ai pas faux. Bah oui, parce que le tueur du premier Vendredi 13, c'est pas Jason, mais c'est sa mère. C'est Pamela Voorhees, puisque Jason et son célèbre masque de hockey qui symbolise le film et la franchise, ouais, en fait, ils vont apparaître à partir des films suivants, mais ça, beaucoup l'ont oublié.
Et alors, la fin de Vendredi 13, donc spoilée dans Scream, par contre, personne n'a oublié la musique du film.
Ah bah ça, c'est clair. Tout amateur de films d'horreur reconnaît le thème dès les premières notes, je pense. Ouais. C'est Harry Manfredini qui l'a composé. Et pour ce faire, il s'est un petit peu inspiré de la musique des Dents de la Mer. Et puis, il a eu aussi l'idée d'un fameux gimmick qu'on entend tout au long du thème qui fait « qui, 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 ma, 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 qui, qui, ma, ma, ma ». Et cette idée-là, en fait, il l'a eue en se basant sur une réplique du film, une réplique donc de la tueuse, hein, de Pamela Voorhees. Dans la scène de fin, lorsqu'elle menace la dernière victime, elle n'arrête pas de dire une phrase. Elle dit, alors en français, c'est « kill her, mommy », en VO, et en français, c'est « tue-la, maman, tue-la, maman ». Donc, ce « qui, ma, ma, ma », ça vient du mot « kill » et du mot « ma ».
Mama, ouais.
Voilà.
D'accord. Mais c'est marrant parce que c'est des idées toutes bêtes, en fait, qui vont faire la force du film par la suite.
Et c'est vraiment ce qu'ils vont faire de tout ce qui va développer l'iconographie, on va dire, autour du film. La musique est iconique.
Ouais, c'est ouf. Et combien il y a eu de suites ?
Alors, il y en a eu beaucoup, hein, puisque plus qu'une franchise, ce Vendredi 13, c'est une véritable saga. Il y a en tout 12 films, dont un crossover avec Freddy Krueger qui est sorti en 2003 et un remake qui avait été fait par Michael Bay, c'était en 2009. Le tout de ces 12 films, ça a généré en tout plus de 500 millions de dollars de recettes au box-office.
Ouais,
c'est gigantesque.
Ouais,
et c'est pas fini, hein, parce qu'il y a un reboot qui serait dans les tuyaux et il y a aussi une série préquelle qui est actuellement en préparation.
D'accord.
Il y a pas aussi un film où il est dans l'espace ?
Si, exactement, c'est une des suites. Effectivement, tu as tout à fait raison. Alors, je pourrais pas trop dire laquelle c'est, mais il y en a une dans l'espace. Et ouais, effectivement.
Est-ce qu'il est bien ?
Non.
Non, c'est pas un des meilleurs.
C'est un cyborg.
Alors, ça dépend. C'est un bon nanar, on va dire. J'aurais juste trois petites anecdotes pour terminer. Une sur le casting, on a oublié tous ceux qui ont joué dans Vendredi 13, sauf un, et il s'appelle Kevin Bacon.
Ah bah ouais.
Voilà, et lui il se fait trucider en troisième position.
Ouais.
Et il y a aussi un autre petit détail, alors ça qui est amusant seulement dans la version française si vous la regardez, lorsque Madame Voorhees elle raconte l'histoire de son fils qui s'est noyé, elle l'appelle pas Jason dans la version française, elle l'appelle Jackie.
Cool. D'accord.
Et ça je vous jure que ça fait perdre un peu de dramaturgie à la scène.
Ouais, c'est vrai.
Puis dernière petite anecdote, sachez que la saison 4 de la série American Horror Story, intitulée 1984, eh bien, elle est largement inspirée du film Vendredi 13.
D'accord, ils se sont inspirés de ce film. Alors, ce film, il a été copié, il a été spoilé dans Scream, personne ne respecte Vendredi 13.
Non, il est trop culte,
c'est
en fait.
C'est un truc de zinzin, en fait.
Voilà l'histoire de Vendredi 13.
Où est-ce qu'on peut le retrouver, les titres?
Alors, j'ai peur qu'il ne soit pas en ce moment disponible sur les plateformes. Je crois qu'il y a, il y a le remake de Michael Bay. Ouais. La version originale, elle n'est pas dispo à part à la location. Par contre, sur Paramount Plus, elle revient régulièrement. Okay. Et puis, il y a plein d'épisodes de suite qui sont dessus.
Ouais, parce que ce n'est pas le film qu'on est susceptible de voir à la télé, quand même, pour le coup.
Non, 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 très rarement.
Ouais,
c'est... Mais sur les plateformes, il revient régulièrement.
C'est vrai qu'il n'y a pas de chaîne qui passe des films d'horreur.
Si, il y en a une ou deux sur. C'est des chaînes à abonnement, quoi.
Ouais, abonnement, ouais, voilà, ça, ouais. Y a, sur la TNT, il n'y en a pas, en fait.
Il y en a eu il y a longtemps, ouais, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, au moment d'Halloween, pour le coup, il passait beaucoup de films
plus
d'horreur.
Maintenant, quoi.
Et avant, il y avait un rendez-vous que tout le monde attendait sur M6, tous les jeudis soirs. Il y avait les jeudis de l'angoisse ou les jeudis de l'horreur, je sais plus.
D'accord.
Et ben, sur, je crois que c'est sur RTL9.
Oui, t'as raison.
Il y a les lundis. Les Spooky Mondays.
Ouais,
ma mère,
lundis,
elle les regarde,
ouais,
tous les lundis.
Tous les lundis, il y a deux films d'horreur sur RTL9.
Ouais.
D'accord, tous les lundis, et bah voilà, bah faut s'abonner à RTL9 par
Donc,
contre.
Donc peut-être qu'il y aura Vendredi 13 dans les semaines à venir.
Eh bah, ben on vous laisse guetter tout ça. Les guetteurs, on en a parlé d'ailleurs en début d'émission.
Ouais.
La boucle est bouclée. Merci beaucoup, Letty. Merci à toi,
Marc-Anthony,
de nous avoir accompagné. C'était cool.
Ah, très cool.
Ça t'a plu?
Ah oui, beaucoup.
Encore deux jours avec nous. Trois si on compte encore aujourd'hui là.
Ouais.
Ça va, tu vas tenir?
Oui.
Ouais.
En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de partager cette émission avec toi.
Ouais,
pareil.
C'était cool. Et tes chroniques étaient très très bien. On se retrouve à 13h avec mon invité, les infos de la mi-journée. Je vous dis à 13h.
Silence. Moteur.
Allons-y.
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre.
Moteur. Et action.